Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonsoir à toutes et à tous. Votre fidélité à Radio Kapi nous touche profondément et nous motive chaque jour à vous offrir une information de qualité. Voici les faits marquants de ce soir. Grande Orientale en alerte. Le leader sonne la mobilisation. Réunis à Kisangani, gouverneurs et représentants dénoncent les attaques par drone et appellent les populations des quatre provinces à une vigilance maximale. RDC, l'indice 2025 des Transparency International déclenche l'alerte rouge. Classée 163e sur 182, la RDC s'enfonce dans une crise majeure de confiance publique, révélant un système miné par la corruption. Salama Bila face à l'urgence, Radek lance une riposte pour protéger les survivants de violences sexuelles. A invité du journal, Jean-Claude Kayumba Chabani, coordonnateur du Radek, dévoile un projet vital d'assistance multisectorielle pour une communauté frappée de plein fouet par l'insécurité et les abus. À Kisangani, la Grande Orientale s'érige en rempart après les frappes par drone. Les leaders politiques et communautaires de quatre provinces issues de l'ex-province orientale disent non à ce qu'ils qualifient d'agression contre la RDC et condamnent fermement les attaques ayant visé l'aéroport international de Bangoka. Cette prise de position a été exprimée hier lundi lors d'une déclaration politique réunissant les gouverneurs de la Tchopo, du Haut-Ouélé, du Bazou ainsi que le représentant de l'Ituri, le coordonnateur de la dynamique de la Grande Orientale et gouverneur du Haut-Ouélé, Jean Bokomito Ngabu, appelle les habitants de ces quatre provinces à une vigilance accrue et à dénoncer tout mouvement suspect afin de prévenir toute nouvelle attaque. Ces propos recueillis par Jacques Moukonkole.
Tous réunis pour dénoncer avec la dernière énergie l'attaque barbare qu'a connue la ville de Kisangani. Des drones kamikazes ont été lancés sur l'aéroport de Bamboka par l'armée rwandaise et ses supplétifs AFC M23. Grâce bien sûr à la vigilance de nos FRDC, ces attaques ont été déjouées et ces drones ont été neutralisés. Et donc il était très important que nous puissions nous réunir en urgence dans le cadre de la dynamique de la Grande Orientale pour condamner fermement cet acte et pour appeler notre population, nos frères et sœurs de la Grande Orientale à la plus grande vigilance et répondre à ces attaques par l'appel à l'unité des fils et filles de la Grande Orientale, les appeler à être tous derrière le président Félix-Antoine Tshisekedi qui fait beaucoup d'efforts pour amener la paix sur l'ensemble du territoire national. Et nous devons rester vigilants et nous devons soutenir les efforts qui sont faits actuellement par les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi.
Dans la continuité de réactions suscitées par la situation sécuritaire à l'est du pays, l'agenda diplomatique s'est poursuivi à Kinshasa. Le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, poursuit ses consultations dans la capitale. Ce mardi, il a échangé avec les députés de l'est ainsi qu'avec le représentant de la société civile de la région. Au menu des discussions, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, la crise humanitaire et les perspectives du dialogue intercongolais. Plus de détails avec Alain Irung.
Pour sa part, la présidente de la société civile du Sud Kivu, Maître Nene Bintou Iragi, a déploré que malgré la signature de l'accord de Washington, les affrontements se poursuivent sur le terrain, entraînant des graves conséquences pour les populations.
La guerre continue, il y a eu des attaques à Ninja, il y a eu des affrontements dans les territoires de Walungu, à Kabare, par-ci par-là, dans les hauts plateaux, c'est toujours les affrontements. Et c'est inquiétant parce que pour nous, on ne peut pas continuer à parler de la résolution 2773, 2808. On signe le cessez-le-feu à Doha, on signe les accords à Washington, mais le contraste est bien visible sur le terrain.
De son côté, le député national Moutiki, cadre de l'Union sacrée de la Nation, exige que le dialogue qui sera organisé se tienne ici à Kinshasa.
Le dialogue en question doit respecter notre pays, les institutions du pays, doit être organisé par les institutions légalement établies et à ce moment-là qu'il y aura la paix. Et le dialogue en question ne signifie pas l'impunité. ou ne signifie pas un partage de gâteaux.
Notez que Jean-Pierre Lacroix doit également rencontrer dans la journée le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, avant de s'envoler pour l'est du pays.
On ouvre cette deuxième partie du journal avec un nouveau signal d'alerte sur la corruption en RDC. Le pays se classe 163e sur 182 dans le rapport 2025 de Transparency International sur la perception de la corruption publié ce mardi. Selon l'organisation, la mauvaise gestion des fonds publics continue de priver les citoyens d'un accès équitable aux services essentiels, touchant plus durement encore les populations sont les plus vulnérables. Pour Transparency International, cette situation révèle un profond déficit d'intégrité politique et appelle à des réformes urgentes, des actions fortes, des mécanismes robustes et un véritable engagement des gouvernements de la région pour combattre la corruption et renforcer la démocratie. Les explications d'Ernest Pararo, président de la Ligue congolaise de lutte contre la corruption et point focal des Transparency International en RDC, joint par Alain Irung.
Transparency International a publié l'indice de perception de corruption 2025 et comme vous allez le lire, la RDC n'a pas évolué. Elle a gardé sa place de l'année 2024. Elle a obtenu 20% des points et cela montre effectivement que la corruption est toujours institutionnalisée et il n'y a pas beaucoup d'efforts pour la combattre. Dans les pays de l'Afrique subsaharienne, la RDC reste toujours à la même place comme parmi les pays africains les plus corrompus et cela doit interpeller les autorités en place pour effectivement qu'on puisse donner des priorités à la lutte contre la corruption parce que tout ce que nous subissons aujourd'hui, que ce soit au niveau sécuritaire, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau social, les défis que la RDC traverse, ce sont des défis de gouvernance et qui a comme conséquence la corruption. Donc vous allez le lire aujourd'hui dans ces rapports que la RDC reste toujours parmi les 20 pays les plus corrompus de la planète.
À Cape Town, l'édition 2026 d'Investing in African Mining Indaba a pris une tournure stratégique ce lundi. Le ministre de Mines a participé à un panel ministériel de haut niveau organisé par Africa Finance Corporation en partenariat avec Bloomberg et NIF consacré au financement des minéraux critiques sur le continent. Aux côtés de ses homologues du Botswana et de la Sierra Leone, Louis Wantum Kabamba a insisté sur la nécessité de bâtir des partenariats stratégiques équilibrés, alignés à la fois sur les intérêts des États africains et sur les attentes des communautés locales. Il a également appelé à la mobilisation d'un capital courageux, capable d'investir durablement dans des environnements complexes, rappelant que l'investissement reste un levier majeur de développement, de stabilité et de paix sur le continent. À Uvira, le commerce lacustre reprend enfin son souffle après un mois et demi de paralysie due à l'occupation de la zone par les rebelles de l'AFC M23. Mais malgré ce retour progressif à la normale, le quotidien des habitants reste lourd. Les prix de produits de première nécessité flambent sur le marché. Les commerçants importateurs pointent du doigt les services financiers du gouvernement provincial. Ils accusent ces derniers d'appliquer des taxes jugées trop élevé sur les marchandises débarquées au port de Kalundu, au cœur de la ville d'Ovira. Un reportage signé Jean Kassami.
Le port de Kalundu situé au bord du lac Tanganyika à Uvira constitue l'épicentre par où accostent toutes les embarcations qui transportent de marchandises en provenance de pays limitrophes, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie. Là, les commerçants désenchantent la flambée des charges douanières imposées par la division provinciale de mobilisation et d'encadrement des recettes DPMR. Un opérateur économique d'Uvira qui n'a pas préféré citer son nom, c'est plein.
Le gouverneur nous avait annoncé l'ouverture du trafic et la culture sur le Tanganyika. Nous nous sommes empressés pour aller importer la farine, l'huile, la boisson et d'autres produits vitaux. Avant la guerre, la taxe de la DPMR revenait à 4 000 $ par camion de marchandises, mais actuellement 6 000 $.
Le député provincial élu d'Uvira Bissima Sinderi plaide en faveur d'allègement des taxes à l'importation.
Dans les conditions sociales et économiques qui sont les nôtres, et à Uvira. La flambée des charges douanières au port de Kalundu est une décision décidément contre-productive.
Les autorités tant de l'Amérique et de la province n'ont pas préféré se prononcer sur la question. Jean Kassami, Radio Okapi.
À Kinshasa, la route des poids lourds a retrouvé son trafic. C'est mardi dans le quartier Kingabwa, commune de Limité. La police est intervenue pour établir l'ordre public après une matinée de fortes tensions. Tout est parti de la colère des résidents de Pakajuma, ces bidonvilles récemment démolies par l'hôtel des villes pour libérer la voie ferrée utilisée par le train de l'Onatra. Des manifestants en furie ont bloqué la circulation et provoqué plusieurs incidents avant d'être dispersés par les forces de l'ordre. La bourgmestre de Limité, Nathalie Aziza, confirme que des actes de violence ont été enregistrés, pillages, incendies et dégâts importants sur des biens de l'État. Le calme est désormais revenu sur place. Et ce n'est pas le seul front des tensions liées aux démolitions. Situation similaire dans le territoire des Mwanda, dans la province du Congo central, où l'opération des démolitions des maisons érigées sur le domaine de la base militaire de Kitu dont le groupement Maputo provoque des vives réactions. Menée par des militaires, cette opération fait suite à une décision de la hiérarchie de la base. Le député provincial Dielzon Sisi Vimbi, qui condamne fermement ces démolitions, estime qu'elles ne reposent sur aucune base légale. Il appelle les autorités des forces armées de la République démocratique du Congo à intervenir pour rétablir le droit des habitants du groupement Maputo. Ces propos ont été recueillis par Nana Pluris Mambou.
Au moment où je vous parle, la population se plaint d'une opération brusque de démolition de leurs habitations. Vous serez d'accord peut-être avec moi que dans l'hypothèse où la population aurait construit en dehors des limites de la base militaire, je crois qu'une procédure légale devait être mise en place pour connaître la vérité. Parce qu'à ma connaissance, ces dossiers datent de l'époque du fait général Mustapha, alors commandant de la base. Là, les vraies limites de la base ont été démontrées et il était clairement établi que la population avait raison de s'installer là où ils sont. Ce ne sont pas des parcelles de la base militaire de Kitu. Et aujourd'hui, nous apprenons que les habitations de la population sont démolies brusquement et la démolition s'est faite par des militaires. Les civils ne peuvent même pas s'approcher pour expliquer quelque chose. Nous sommes en train de fustiger ce genre d'agissement parce que une procédure légale devait être mise en place pour démontrer les vraies limites. Les autorités hiérarchiques des FARDC doivent s'y mettre pour qu'une solution soit trouvée.
Nos tentatives pour joindre l'administrateur du territoire et le commandant de la base militaire de Kitona sont restées vaines. Un an après le coup d'envoi des travaux de la centrale hydroélectrique de Mbombo, les chantiers patinent. C'est le constat posé par la société civile locale qui s'est dit de plus en plus préoccupée par le net ralentissement observé sur le terrain. Prévu pour fournir 12 mégawatts, cette infrastructure doit être érigée sur la rivière Lulua à Tchibamboula, à une dizaine de kilomètres de Kananga. Elle est censée donc alimenter la ville en énergie et réduire le déficit électrique qui touche toute la province du Kasaï central. Pourtant, sur le terrain, l'avancement reste bien en deçà des attentes et les inquiétudes se multiplient. Le mouvement citoyen lutte pour le changement Lucha, section Kasaï central, dénonce à son tour les retards accumulés dans ce projet piloté par l'ANSER, l'Agence nationale de l'électrification et de services énergétiques en milieu rural et périurbain. Un reportage signé André Katende Ngalamoulomé.
Lancé depuis février 2025, les travaux de la construction du barrage de Mbombo n'évoluent pas comme prévu. Sur le terrain, seulement quelques travaux sont enclenchés, notamment l'aménagement de la voie d'accès, la construction de la base vie et les études géotechniques. Cependant, les travaux proprement dits n'ont pas encore débuté. Jean-Calvin Luamba, militant du mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha, section du Kasaï central, s'est plaint du retard dans l'exécution du projet qui devrait être exécuté dans 24 mois.
Depuis le lancement des travaux de la construction, une année sans savoir où nous en sommes avec l'évolution de ces travaux. Le projet était censé s'exécuter dans 24 mois. Et l'on se pose des questions pour savoir, c'était l'essai, erreur, ou c'était une aventure. Ils peuvent nous dire réellement ce qui se passe.
Nous avons tenté de joindre les responsables de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, ANSER, en charge de l'exécution de ces travaux, mais nos démarches sont restées sans réponse. Kananga, André Katendengala Moulumé, Radio Kapi.
Au Kasaï oriental, l'accent est mis cette semaine sur le leadership féminin. 40 jeunes étudiantes issues de plusieurs institutions universitaires de Mbujimayi participent depuis lundi au programme IFES Leadership Club, une initiative destinée à renforcer la présence des femmes dans les espaces décisionnels portés par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES. Ces programmes bénéficient du soutien financier du Bureau des Affaires étrangères du Commonwealth et du développement du Royaume-Uni. Deux femmes au parcours particulièrement inspirant ont été sélectionnées pour encourager, donc accompagner ces jeunes participantes durant les deux prochains mois. Les explications d'Esther Dalafina.
Bénédicte Tendeshimutombo, étudiante de l'université de Mbujimayi, une des bénéficiaires, apprécie la mise en œuvre de ce projet qui consiste à former les jeunes filles sur le leadership féminin.
C'est un programme qui nous outille avec des compétences ainsi que des capacités afin de nous permettre de nous positionner dans la société en tant que jeunes filles et femmes en devenir comme leaders aussi aspirantes.
Pour sa part, ingénieure Chantal Moulanga, ministre provincial de l'agriculture, choisi comme mentor, a encouragé les jeunes filles à cultiver une pensée positive et la confiance en soi. Au nom de la directrice pays de IFES, Edna Koskei, Raissa Chikandama, chargée de communication à IFES RDC, a rappelé les objectifs de IFES Leadership Club.
C'est améliorer la connaissance des jeunes femmes qui aspirent au leadership. On a aussi ces points-là de mettre à la portée de ces jeunes femmes entre les décideurs et qui sont comme la population. Parce qu'elles inspirent au leadership, on leur donne cette opportunité d'être avec ces femmes-là, de les écouter et de surmonter leurs défis.
Signalons que ce nouveau projet de IFES est actuellement mis en œuvre dans cette province de la RDC. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Guinée, de vifs tirs ont été entendus ce matin aux abords de la maison centrale de Kaloum, en plein cœur du centre administratif de Conakry. Selon des témoins sur place, les détonations ont débuté vers 9h, heure locale, et temps universel, et se sont prolongées durant une trentaine de minutes. Dans la foulée, l'accès au centre-ville a été immédiatement bouclé par des militaires avant une réouverture progressive peu avant 11h. Tout au long de la matinée, policiers et soldats ont interdit la circulation sur les artères menant à la prison. Plusieurs ambulances étaient stationnées à proximité, renforçant les climats des tensions. La maison centrale de Kaloum abrite plusieurs détenus sensibles, notamment d'anciens militaires poursuivis dans le dossier du massacre du 28 septembre 2009, ainsi que d'anciens ministres du régime d'Alpha Condé. À cette heure, aucune communication officielle n'a encore été faite par les autorités guinéennes au sujet de ces événements.
L'invité.
Notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Claude Kayumba Chabani. Il est coordonnateur de l'ONG Réseau des associations pour le développement communautaire, le RADEC, qui vient de lancer un projet d'assistance multisectorielle d'urgence en protection destinée aux survivants de violences sexuelles dans la zone de santé des Salamabila, en territoire des Kobambaré. Nous sommes au Maniema. Quels sont les objectifs de cette initiative? Quelles interventions concrètes sont prévues et quels défis persistent sur le terrain? Jean-Claude Kayumba Chabani répond aux questions de Florence Kizalunga.
Jean-Claude Kayumba Chabani, bonjour.
Bonjour madame le journaliste.
Que vise ce projet que vous venez de lancer aujourd'hui dans la province du Maniema?
Ce projet qui a comme titre assistance multisectorielle d'urgence en protection aux survivants de violences sexuelles dans la zone santé de Salamabila, territoire de Kabambare, province du Maniema, en République démocratique du Congo, vise à donner une réponse directe aux survivants de violences sexuelles et basée sur le genre, laquelle réponse nous nous avons d'abord une réponse médicale, la prise en charge médicale, la prise en charge psychologique et aussi la prévention.
Ce projet qui a une durée de 6 mois cible combien de victimes?
Le projet vise au total 800 survivants de violences sexuelles basées sur le genre.
800 victimes. Et pourquoi seulement avoir choisi l'unique zone de santé de Salama Bila alors que la province du Maniema en dispose plus de 18?
Merci beaucoup. Nous avons choisi l'unique zone de santé de Salama Bila parce qu'il y avait un partenaire de taille là-bas, MSF Espagne, qui s'est désengagé, qui traitait sur les violences sexuelles, qui s'est déjà désengagé au mois d'octobre dernier. Alors la zone est restée sans appui. Il a fallu qu'on ait un partenaire pour s'y plaire à certains acquis qui ont été laissés par le partenaire de taille. Alors nous avons essayé un peu de faire le plaidoyer auprès de ses partenaires avant son départ. Et lui aussi nous a dit que non, je veux plaider votre cas au niveau de l'Europe. Et il a plaidé normalement. Et nous avons reçu le fonds de la Fondation Arnold de la Camara et de la Congrégation Sagrada Familia de Buedo qui nous ont donné de l'argent pour essayer un peu de mettre en œuvre certaines activités par rapport à ces projets.
Et ces projets, quelles sont ces activités que vous allez mener?
Voilà. D'abord, il y aura la prévention. La prévention sur le violence sexuelle est basée sur les genres. Il y aura des sensibilisations. On va passer porte à porte. On va faire aussi les focus group. On va faire aussi les émissions radio. On va faire aussi plusieurs formations pour que les gens comprennent quand même les conséquences de violence sexuelle est basée sur le genre.
C'est durant 6 ans que MSF a travaillé à Salama Bila dans le cadre des violences basées sur le genre et violences sexuelles. Maintenant, aujourd'hui, vous venez. Est-ce qu'il y a-t-il encore des cas de violences sexuelles qui sont reportées?
Oui, normalement, il y a les cas de violences sexuelles basées sur le genre qui sont reportées. Même si vous vous rendez dans les tribunaux, dans les structures sanitaires, vous allez remarquer toujours qu'il y a des cas là-bas. Et c'est sur base de ça que nous avons fait ce projet pour essayer un peu d'accompagner le survivant de violences sexuelles dans tout ce que j'ai venu de dire, la prise en charge médicale, la prise en charge psychologique et aussi la prévention.
Et dans votre projet, il n'y a pas l'accompagnement juridique?
Non, madame, il n'y a pas l'accompagnement juridique dans notre projet. Nous avons voulu commencer d'abord par la prise en charge médicale et la prise en charge psychologique. Et c'est aussi une interpellation pour nous. Nous interpellons d'autres organisations pour venir afin que la prise en charge soit holistique. Parce que s'il y a beaucoup d'organisations dans la zone et que nous prenons la prise en charge médicale et psychologique et d'autres organisations prennent la prise en charge, par exemple, juridique ou socio-économique, là, le paquet sera complet.
Alors, que doivent faire les victimes pour bénéficier de votre assistance?
Les bénéficiaires doivent se rendre dans un délai de 72 heures dans une structure que nous venons de citer là-bas parce que nous allons travailler dans 4 structures, l'heure de santé Camp Central, l'heure de santé Kumbaseke 1, le centre de santé de référence de Wamaza et l'hôpital général de référence de Salama Bila. Ou soit voir un agent santé reproduction qui doit l'orienter jusqu'à tel point qu'elle sera ou qu'il sera pris en charge.
Pour que ce projet puisse avoir des succès, qu'est-ce que vous demandez à la communauté et même aux autorités?
Pour que le projet puisse avoir de succès, nous demandons l'implication de tout le monde. Parce que si tout le monde s'implique, vraiment le projet aura des succès et nous osons croire que même le bailleur qui nous donne ce financement seront comptables. Ici, vous avez vu comment est-ce qu'on a interpellé la DEPES pour ce qui concerne, par exemple, l'acquisition des kits PEP. Il faudra que les kits PEP soient ici permanents afin que nous puissions les transporter jusqu'à Salama Bila et mener à bon train notre projet.
Jean-Claude Kayumba Chabani, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Radio Okapi.
Vous venez d'écouter Jean-Claude Kayumba Chabani, coordonnateur du RADEC, le réseau des associations pour le développement communautaire. Il nous parlait du nouveau projet d'assistance multisectorielle d'urgence en protection destiné aux survivants de violences sexuelles dans la zone de santé des Salama Bila en territoire des Kabambaré. C'est la fin de ce journal, mais l'actualité, elle, se poursuit à chaque instant sur Radio Okapi. Mise en onde, Alain Goy. Présentation, Gisèle Cage, coordination éditoriale. Élisée Chikota, supervision Alain Irung. Pour suivre l'information en continu, rendez-vous sur notre site radiocapi.net et sur nos différents réseaux sociaux où vous attendent des mises à jour en temps réel. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle édition.